À quelques jours du rapport de la commission Régine Laurent, de la commission Laurent sur la DPJ, on va se poser la question, est-ce que nos enfants seront mieux protégés? Il y a déjà, semble-t-il, des décisions qui vont être prises sous peu. Québec serait prêt à déjà réformer la loi sur la protection de la jeunesse pour que prime avant tout le bien-être de l'enfant. On aurait envie de se dire comment ça se fait que c'était pas déjà là. On va remettre aussi, semble-t-il, en question la priorité accordée actuellement au maintien de l'enfant dans sa famille biologique quand il y a maltraitance. On s'attend donc à ce que ces recommandations qui sont vivement attendues depuis plus d'un an et demi ne soient pas tablettées. Vous l'avez entendu dans notre bulletin de nouvelles. Paul Arcand, mon collègue ce matin, avait la nouvelle directrice de la Direction de la protection de la jeunesse qui disait qu'elle allait tout faire pour que nos enfants soient, comme le veut l'expression bien connue, au centre de nos préoccupations. J'avais envie d'en parler avec deux enfants qui ont vécu la maltraitance, qui ont vécu l'abandon, qui ont vécu la honte, qui ont été ballottés d'une famille d'accueil à une autre famille d'accueil, parce que je pense que ils sont les meilleurs juges pour nous dire ce qui s'en vient, puis si vraiment cette commission va changer la vie des enfants du Québec. Avec moi, Nancy Audet, les journalistes, ex-enfant de la DPJ. Elle a écrit le livre « Plus jamais la honte », le parcours improbable d'une petite poquée. Bonjour, Nancy.
Bonjour, Isabelle.
José Lito Michaud est l'animateur que vous connaissez bien. Il a écrit le best-seller « Dans mes yeux à moi », sa suite également, 3 mois tout au plus. Vous avez sans doute vu sa série « Olivier, le parcours d'un enfant en quête d'une famille qui allait l'aimer » et qu'on a vu justement passer d'une famille d'accueil à une autre famille d'accueil. Bonjour, José Lito.
Bonjour, Isabelle.
Merci à tous les deux de prendre le temps. Je vais vous poser la question comme je vais la poser en même temps à nos auditeurs et j'en profite pour donner tout de suite nos numéros. Si vous avez envie de témoigner de ce que vous avez vécu, vous aussi, ne vous gênez pas. 514-790-790-9850 et partout au Québec, où que vous nous écoutez, vous faites le 1-866-790-9850. Je tiens aussi vraiment à dire que je suis vraiment désolée. Là, vous êtes très nombreux à me dire qu'on a des problèmes techniques. Je veux juste vous rassurer, on est là-dessus. Notre équipe technique essaye de répondre à ce problème-là. Je sais que ça peut peut-être couper. Alors, on va essayer de parler pas trop vite et puis de vous donner une chance aussi de nous joindre par téléphone. Alors, soyez patients avec nous. Ça va bien aller, comme on dit. Nancy, José Lito, vous avez tous les deux vécu plein de choses. Les larmes, les coups, la violence verbale, l'abandon. Nancy, t'as même été témoignée à la commission Laurent. Je disais que j'allais vous poser la question comme je la pose à nos auditeurs avec ce rapport qui va être rendu public sous peu, vendredi à Québec et lundi à tout le monde. Est-ce que nos enfants vont vraiment être mieux protégés, d'après toi, Nancy?
Je l'espère. Si on a plus d'espoir, ça vaut pas la peine de continuer. Moi, j'ai décidé d'avoir espoir. Déjà, il y a eu une commission d'enquête. Il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui sont venues témoigner. Des témoignages qui ont été troublants, Isabelle. Mmh. Vraiment troublants. Des anciens et des professionnels aussi qui œuvrent dans le système. Et ce qui s'est dit là, c'est qu'il faut que ça change. C'est urgent. Il y a des vies qui sont en jeu. Il y a des enfants qui sont morts. Isabelle, on le sait, dans les 2 dernières années, ça a été terrible au Québec. Mais encore aujourd'hui, ce matin, on se parle, et il y a 3000 enfants sur les listes d'attente en ce moment. Il y a 3000 enfants au Québec qui sont là dans leur foyer. Il y a eu un signalement. On s'inquiète pour eux, mais on n'est même pas capable d'aller voir s'ils sont en sécurité. Moi, c'est sûr que je dors pas la tête tranquille. Et je pense que pour personne aujourd'hui au Québec qui peut dormir la tête tranquille. Donc, j'espère que le rapport va frapper là où doit frapper. J'espère que ce rapport ne sera pas tabletté. On nous dit que non. Je l'espère bien. Parce que il y a des vies. On a des vies entre les mains. La vie de centaines, de milliers d'enfants. Ils sont plus de 35 000 dans le système en ce moment. C'est énorme. C'est beaucoup trop. Donc, j'ai choisi d'avoir espoir. J'espère qu'il va y avoir des changements. C'est urgent d'apporter ces changements-là.
Mmh. José Lito Michaud.
Ben moi, je trouve qu'à un moment donné, quand on regarde la pandémie, ce que ça a fait, ça a mis en relief 2 phénomènes hallucinants, c'est-à-dire une forme de maltraitance envers les personnes âgées puis une insouciance très grande pour nos enfants. Mm. Et je trouve que ce que ça a fait aussi, moi, j'ai vu des gens, moi, je repensais à tous ces moments d'horreur où j'avais un homme violent comme père chez moi, puis je me disais, mon Dieu, qu'est-ce que j'aurais fait en temps de pandémie à 24 heures sur 24 avec cet homme-là? Comment j'aurais fait? Et c'est ça qui m'est venu, moi, quand la pandémie est arrivée. Et je me suis dit, ça, on a parlé beaucoup de féminicide avec raison, ça n'a aucun sens ce qui se passe. Mais il y a un lien direct avec nos enfants, c'est-à-dire ils sont témoins, j'allais dire privilégiés, mais malheureusement non, ils sont des témoins aux premières rangées, aux premières loges, puis qui voient ça, c'est incroyable. Et on oublie souvent, on parle beaucoup des violences physiques, mais il y a aussi la violence psychologique.
Ouais.
Et on en parlait entre autres avec Laurence Gilbert, qui en parlait énormément, tout le monde en parle, et la semaine passée, elle fait une sortie en règle.
Ouais.
Moi, je trouve que nos enfants sont témoins beaucoup de la violence psychologique, et ça, ce qui est terrible pour l'avoir vécu, ça s'insère à l'intérieur de nous, et on finit par croire tout ce qu'on a entendu. On finit par croire que c'est ça, la vraie vie. Et moi, je me dis que quand j'entends dire qu'il y a 3000 personnes, 3000 enfants qui attendent d'être évalués, ils sont toujours en face de leur agresseur. Mmh. Ils sont toujours en face de leur impossibilité de changer les choses. Imaginez-vous quel genre d'enfant ça devient. Un enfant nerveux, qui devient un jour hyper vigilant, qui devient incapable de socialiser, qui pense que la société est comme ça, il commence à se rebeller à 7-8 ans. Puis après ça, on s'étonne que dans les prisons, partout ailleurs, qu'il y a des enfants poqués, comme on les appelle, qui se retrouvent là. Bien, je pense que aujourd'hui, c'est un devoir du gouvernement Legault. C'est un devoir important que ce rapport-là, à la première lecture, qu'on ait la semaine suivante, des gens qui disent « qu'allons-nous faire? » Ça, c'est fondamental.
Mmh. On parle entre autres du fait qu'on va peut-être revoir la priorité qui est accordée en ce moment aux parents biologiques, même s'il est violent.
Ça n'a pas de bon sens, Isabelle.
Ouais. C'est ça, t'en penses quoi de ça? Tu trouves que... ouais.
Ça n'a pas de bon sens. Écoute, il y a des... J'ai entendu ça un jour, pour l'équilibre de l'enfant qui revoit son parent identifiant. Ben voyons donc, le parent, excusez-moi maintenant, le parent identifiant et son agresseur. Mm. Sortez de là. Tous les gens sont en banque mixte présentement. J'ai 4 amis qui vivent ça actuellement. Incapables d'adopter l'enfant, sachant que la mère, elle est toxicomane, que le père est parti. Mais il faut encore créer un contact entre la mère au cas où qu'elle se rétablisse. Ben non! Qu'est-ce que vous pensez que ça fait quand l'enfant revoit sa mère? Il apprend pitié, ce que j'ai fait une grande partie de ma vie. Là, on se sent coupable de ce que la mère vit. Double impact sur l'enfant. Inadmissible. Si on voit que l'enfant, le parent n'est pas apte, on a passé des aptitudes, hein, mais s'il n'est pas apte à le faire, il ne sera jamais apte. S'il vous plaît, donnez-lui un confort et donnez-lui un foyer dans lequel il sera bien. Voyons donc.
Ouais. Nancy, dans ton livre, justement, tu parles de ton plus lointain souvenir remonte quand tu avais 3 ans. Ta mère était fâchée contre toi. Tu savais pas ce que tu avais fait de mal. Tu t'écris habituellement, elle s'en prenait à moi quand je me chicanais avec ma sœur. De toute façon, peu importe la situation, c'était toujours de ma faute. J'essayais d'éviter ses coups. Elle me serrait le bras, j'avais mal, je hurlais, mais il y avait personne qui était là pour m'entendre. Bref, je lirai pas tout ton livre, mais visiblement, cette fois-là, tu as eu des dommages à la tête, tu as eu une commotion cérébrale, même ton père. Tu dis, mon père se rappelle pas le mensonge exact qu'il a raconté au médecin de peur qu'il appelle la police, mais ça a dû être quelque chose comme un accident. Les médecins ne trouvaient pas ça normal. Tu as été quelques heures en observation, puis finalement, on t'a ramené chez toi. Ce genre de situation aujourd'hui, c'est sûr qu'elle arrive encore à des enfants au Québec.
Ça arrive trop souvent.
Il y a une responsabilité de tout le monde aussi, des gens qui sont témoins. Il y a beaucoup de témoins. Dans ton cas, dans le cas de Joselito aussi, tous les deux, il y avait plein de monde qui voyait ce que vous avez vécu.
Malheureusement.
Ouais.
Mais ça n'a pas changé, Isabelle. C'est ça qui est... C'est ce qu'on a appris aussi avec la fillette de Grimbé. Les gens savaient, les gens détournent le regard. Je pense qu'on a le sentiment que c'est moins pire aujourd'hui. Non, il y a eu 118 000 signalements l'année passée au Québec. Ça, là, c'est plus de 340 enfants par jour. C'est chez nous, ça. C'est pas ailleurs. Donc, je pense qu'il faut qu'on se regarde dans le miroir, même si c'est pas facile, même si c'est douloureux. Il y a encore beaucoup de violence au Québec. Nos enfants vivent beaucoup de violence. Ce que moi, j'ai vécu, les coups, les coups à la tête, ça existe encore. Mais il faut que ça arrête. Il faut qu'on trouve maintenant des solutions parce que les séquelles, et là, j'entendais José Lito qui parlait des séquelles physiques. Bien sûr qu'il y a eu des séquelles physiques, mais c'est vrai que les séquelles psychologiques sont énormes. C'est quelque chose qu'on garde pour toute la vie. Et c'est très difficile d'être heureux, d'être épanoui et de contribuer à la société québécoise. Donc, j'espère encore aujourd'hui, ben, la conscience de ces enfants-là, on a l'impression qu'on vaut rien, hein. On a aucune estime de nous-mêmes. Si aujourd'hui, il y a seulement 9% des signalements qui viennent de la communauté. Moi, ce que ça m'envoie comme message, c'est que c'est pas normal. C'est que encore trop souvent, les gens préfèrent détourner le regard, préfèrent garder le silence pour briser le silence. Nous aussi, c'est notre responsabilité. Plus jamais. Moi, quand je pense aux petites Nancy là, qui sont en ce moment enfermées chez eux, on va pas voir si elles vont bien. J'ai mal. Parce que je sais toute la souffrance qu'il va avoir derrière ça pour des années et des années à venir. Moi, j'ai été chanceuse et rencontré des anges sur mon parcours. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas cette chance-là, Isabelle. C'est à eux que je pense aujourd'hui. J'aimerais ça que tout le monde pense à ces enfants-là. Ils sont encore plus dans une situation délicate et difficile actuellement pendant la pandémie. Je n'ose pas imaginer qui va arriver à la fin de cette pandémie et tous les enfants qui ont subi de la violence physique et psychologique au cours des 12 derniers mois. C'est terrible juste d'y penser. Donc, j'espère qu'on va faire nos devoirs et j'espère qu'on va décider de prendre soin de nos enfants.
Oui. Vous restez avec moi tous les deux. Merci d'être là. Merci de vos témoignages. C'est très précieux. Ça donne aussi l'occasion aux gens qui nous écoutent. Et je suis vraiment encore désolée. Je sais qu'on a des problèmes, entre autres sur Internet, là, que c'est difficile de nous écouter, mais restez à l'écoute tout de même. Je vais vous donner la parole, bien sûr, au cours de jusqu'à 12:05. Vous aurez l'occasion de pouvoir témoigner de ce que vous avez vécu. 514-790-9850 pour tous ceux qui nous écoutent dans la région de Montréal. Un peu partout au Québec, où que vous soyez, vous faites le 1-866-790-9850. Est-ce que vous croyez que le rapport de Régine Laurent va changer les choses pour les enfants du Québec, pour le mieux, bien sûr, pour éviter qu'il y ait d'autres petits poquets? Et on discute de ça au moment où, justement, l'Observatoire des tout-petits redoute toutes les questions de maltraitance, la négligence exacerbée par cette crise sanitaire depuis l'année dernière, qui fait que ce sont nos enfants qui sont témoins de la violence conjugale et qui sont aussi victimes de la violence domestique. Il n'y a jamais, jamais, jamais un enfant devrait être battu et devrait être dénigré, jamais, parce que je peux vous le dire, ça laisse des traces indélébiles. On s'en sort difficilement. C'est toujours un petit peu là dans le fond, derrière notre tête. Puis même si on devient quelqu'un, comme José Lito, comme Nancy, comme vous peut-être qui nous écoutez, même si on arrive tout de même à fonctionner, à travailler, à avoir des rapports avec les autres, on reste pour le reste de notre vie un enfant blessé. Ça suffit, ça. Il faut avancer. Il faut donner un territoire sécuritaire à nos enfants. Je vous parle tout de suite après. À quelques jours du dépôt du rapport de la Commission Laurent, est-ce que nos enfants vont être mieux protégés à l'avenir, vous pensez? On a Antoine qui est avec nous. Antoine habite Rigaud et avec sa femme qui travaille justement en centre jeunesse, il aimerait beaucoup devenir famille d'accueil. Nancy Audet, une de mes invitées avec José Lito Michaud, va être contente d'apprendre ça, Nancy, puisque tu es porte-parole, tu es marraine des centres jeunesse, c'est bien ça?
Je suis marraine de la Fondation du centre jeunesse de Montréal, marraine des enfants de la DPJ, oui.
Bon, Antoine, vous aimeriez devenir famille d'accueil?
Oui, c'est ça. Écoutez, nous, on avait commencé les processus dans la Montérégie, mais puisque ma conjointe travaille dans le centre jeunesse de la Montérégie, on ne peut pas être candidat IGIB en Montérégie. Donc, on avait appliqué dans les régions nous entourant, donc les Lanaudière, les Laurentides, Laval et Montréal. Puis, on avait commencé les processus avec Laval. Puis, toutes les autres régions nous ont refusé, disant qu'on était trop loin. Puis par la suite, on entend que comme ça, qu'il y a des enfants qui sont encore dans leur foyer violent, dans le foyer qui usent à leur développement. Puis nous, on est une bonne famille qui désirait juste aider des enfants.
Ah, puis la raison qu'on vous donne, c'est que vous habitez trop loin.
C'est la distance, exactement. À Laval, on était rendu quand même loin dans les processus. Puis à un certain moment, là, ils nous ont simplement dit qu'ils n'auraient jamais dû nous rappeler. puis que la raison là, de notre refus, c'était la distance qu'ils trouvaient que 45 minutes là, du centre jeunesse de Laval, c'était trop.
Fait que vous êtes trop loin du bureau, finalement, c'est ça que je comprends.
Ben exactement. Donc, on est trop loin de toutes les régions. Montréal nous ont offert de déménager à Vaudreuil, puis à ce moment-là, ils nous prendraient. Mais nous, notre maison nous convient à Rigaud.
Ben oui.
Puis on est bien à cette maison-là. Donc, puis notre maison, elle serait parfaite pour accueillir un enfant. Puis nous, on était tout prêts aussi à en recevoir un.
Ah, c'est vraiment dommage, Nancy Woodell, quand t'entends ça, ta réaction?
Ben c'est sûr que ça me fait mal au cœur. Je pense que les règles sont aussi à revoir parce que c'est quelque chose que j'entends vraiment souvent. Mm. Il y a plein de belles familles qui sont là qui aimeraient, mais pour des technicalités comme ça, on les refuse. Je pense que dans ce cas-là, je crois qu'on doit être prêt quand même des parents biologiques parce qu'il y a souvent des visites, hein, la fin de semaine. Donc, on veut pas que le trajet soit trop long pour les enfants. Mais il y a trop de besoins. Donc, il faut arrêter. C'est pour ça qu'il faut alléger. Il y a des centaines d'enfants qui sont en attente d'une famille d'accueil qu'on est obligé d'en mettre en centre jeunesse, qui n'est pas un endroit qui est vraiment adéquat pour des jeunes enfants. Donc, ça aussi, ce sera à revoir. J'espère que ça fera partie peut-être des recommandations.
Oui, tout à fait. Ben, écoutez, merci Antoine, puis bonne chance. Alex nous appelle. Bonjour Alex. Vous avez...
Oui, bonjour.
Êtes-vous un ancien enfant de la DPJ, vous aussi?
Oui, c'est ça. Je viens d'un milieu. Mon père était violent, mes deux parents étaient alcooliques, tout ça. Puis on a été placés, on avait 11 ans. Puis moi, c'était comme pour apporter peut-être une perspective un petit peu différente. Moi, j'ai vraiment eu des bons services par la DPJ. Ça a été instantané pratiquement. On a été placés. C'était très sécuritaire, tout ça. C'était très bien.
Fait que vous avez fait une famille, en fait?
Non. De non? 11 à 18 ans, j'en ai fait une dizaine, mais j'étais tannant.
Vous étiez tannant?
Oui, j'étais tannant un petit peu. Donc, on changeait de famille d'accueil, mais il y en avait là-dedans, c'était des perles. Et ça a duré longtemps. Ils étaient très endurants, ils étaient gentils, ils étaient très aimants, ils étaient très, très bons. Puis, c'est ça.
Ouais, une dizaine, ça fait quand même beaucoup, là. En peu de temps.
Régions, en plus.
Mon Dieu. OK. En genre 7-8 ans, 7 ans, 10 familles, 3 régions différentes. C'était pas possible pour vous de rester c'était impossible de rester dans la même famille ou de faire moins de familles?
En fait, c'est qu'il n'y en avait pas suffisamment dans ma région initiale, Shawinigan. Puis, on a dû donc en faire dans d'autres régions. Puis aussi, pendant les étés, ils ont des vacances. On appelait ça le répit. Donc, quand ils partent en vacances, on va dans d'autres familles d'accueil. Mais c'est pour dire que il existe quand même des bons services au sein de cette entreprise-là.
Ouais, ben, oui, j'espère qu'il y a des bonnes familles. Mais oui, effectivement. Merci, ben oui. Alex. J'aimerais entendre peut-être Joselito Michaud là-dessus, parce que Joselito Michaud, toi, t'en as vu là, des familles. Puis,
J'écoutais Alex à parler. C'est ça qui était incroyable à une certaine époque. C'est très intéressant ce qu'Alex a dit quand il disait « j'étais tannant ». Mais ce qu'il dit pas, c'est la raison pour laquelle il devient un tout petit peu perturbé, parce que justement, cette instabilité-là émotive fait en sorte qu'il y avait difficulté à trouver ses repères. Moi, c'était pareil. Il y avait un truc qui me revient constamment, que j'ai mis dans la série Olivier, c'est la journée de la photo, où on devait faire la photo pour être adoptable. Ça veut dire, arrange-toi sur la photo pour être cute, puis plus on vieillissait, moins on était adoptable. Ça, je me souviens là que ça jouait en 2-3 photos. Et puis moi, il y a un ami à moi, le petit Mario, qui était dans une famille avec moi. Lui, je me souviens, il voulait venir avec ma famille, puis moi, je voulais partir avec lui. Puis ils m'ont dit non, toi, tu t'en vas. Fait que lui, il est parti, puis j'ai appris qu'à l'âge de 18 ans, après avoir fait 17 familles, une par année, là, ben il s'est enlevé la vie sur une entrée d'une famille qu'il avait beaucoup appréciée, s'est sauvé, qui a décidé de mourir à l'endroit. Pourquoi? Parce qu'il craignait le 18 ans. Parce que ce qu'on n'en parle pas beaucoup, on va en parler sûrement bientôt, c'est le 18 ans quand on met ton sac de poubelle dehors, puis on dit bonne fête, bienvenue dans la vraie vie. Ça, c'est quand on sort des centres jeunesse. Oui, on fait un plan, mais le plan n'est pas encore bien fait. Parce qu'on n'est pas prêt à 18 ans à avoir notre propre aile quand on a réussi, on n'a pas eu de stabilité nulle part. Et ça, faut revoir ça aussi. Il faut les accompagner. On peut pas mettre des gens dehors à leur 18e anniversaire. Il faut être capable de les accompagner pour qu'ils puissent devenir autonomes. On n'est pas autonomes. Ils sont poqués, ces enfants-là.
T'as tellement raison, tellement. C'est affreux, cette histoire du petit Mario.
Ah, c'est... Écoute, quand j'ai appris ça, Isabelle, 25 ans après, parce que 25 ans après, j'ai découvert une des femmes qui vivait dans une maison. Elle dit, ah, de vous, José Ito, qui est avec moi. Et je lui dis, première chose que je lui demande, c'est Mario. Mm. Où est Mario? Mais donc, tu ne peux pas te souvenir de ça, parce que ça fait longtemps. J'avais 3 ans et demi à l'époque. Je dis, monsieur de Mario, je peux décrire comment il était. Mm. Et puis, voilà, c'est ça qui se passe. C'est des destins brisés. Et puis, moi, je me souviens, on a voulu changer de place. Je me souviens. Mais on dit, non, c'est toi, tu vas partir avec l'autre, toi, tu vas partir avec l'autre. Donc, on ne sait jamais le destin de ces gens-là. Mais il y a beaucoup de jeunes qui se retrouvent. Ils se sont rendus compte, allez voir ce qui se passe dans les prisons, malheureusement. On n'arrête pas de rendre coupables les coupables. Mm. Mais allez voir de quel background, de quel passé ils vivent et qu'ils portent à tous les jours.
Ouais. On a Philippe qui nous appelle. Bonjour, Philippe.
Bonjour, ça va bien?
Oui, on vous écoute.
Écoutez, j'entends des chiffres et je trouve ça épouvantable. Mm. Pourquoi qu'on ne crée pas un bassin? Un peu comme, exemple, la SQ, qui à un moment donné, il faisait de la publicité sur Facebook. Vous avez des études supérieures à appliquer, on va vous former. Au même principe aussi qu'il était CHSLD, M. Legault crée une grande poussée pour avoir plus de personnel, mais mm-hmm. on manque d'intervenants au niveau de la DPJ. Pourquoi on n'ouvre pas le bassin pour des personnes qui sont intéressées, mais qui ça leur tente pas de retourner aux études? J'ai un meilleur exemple, j'ai un frère qui a des études supérieures, puis il se rend compte finalement, mais c'est un domaine qui l'intéresse, il veut aider, mais ça ne tente pas de refaire tout le cheminement pour ça. Donc, pourquoi qu'on ne crée pas un plus gros bassin si on voit que la demande est là? Mm. J'entends des chiffres, 3000 enfants qui n'ont pas pu recevoir une évaluation. Ça n'a pas de sens.
Oui, en ce moment, puis l'Observatoire des tout-petits aujourd'hui qui nous dit que le confinement et le fait que les membres de la famille sont les uns sur les autres dans la maison, ça a augmenté les tensions, ça a augmenté les conflits, ça a fait des enfants des témoins des cas de violence conjugale dont on a beaucoup parlé, mais ça a fait d'eux aussi, pas que des témoins, mais aussi des victimes de violence à la maison, de violence familiale. Il y a beaucoup d'enfants qui sont battus, qui sont maltraités, qui sont dénigrés au Québec. Et il y a beaucoup d'enfants qui peuvent être des cas de la DPJ, mais qui ne seront jamais un dossier sur un des bureaux d'intervenants de la DPJ aussi. Là, parce que toutes sortes de raisons. Là, parce que les voisins n'ont pas fait de signalement, parce que ça reste l'omerta aussi. Là, on parle de 3000 enfants sur la liste d'attente, comme nous le disait Nancy Audet tout à l'heure, mais il y en a combien qui devraient être, ne serait-ce que vu par quelqu'un, une bonne personne bienveillante qui leur demande comment ça va, est-ce que tu es bien à la maison, est-ce que tu te sens protégé par ton papa, par ta maman. C'est tellement, ça m'arrache le cœur, je vous jure, ça m'arrache le cœur. On va aller à la pause là-dessus, on va se refaire le cœur un petit peu pendant 2-3 minutes et puis on va vous reparler bien sûr. Si vous avez des témoignages, on vous écoute avec beaucoup, beaucoup d'intérêt, pas de jugement, de l'empathie, tout ce que vous méritez. Si vous êtes un ex-enfant de la DPJ, si vous êtes un intervenant aussi, ne vous gênez pas pour nous appeler. Dites-moi ce que vous vivez. Si vous avez envie d'être famille d'accueil, bien sûr, dites-nous-le aussi. 514-790-9850, 1-866-790-9850. J'espère que c'est un peu mieux pour votre écoute, entre autres sur Internet. C'est une belle discussion que j'ai avec mes invités. Je vous rappelle, je suis en compagnie de Nancy Audet et José Lito Michaud. À tout de suite, tout le monde. Comment mieux protéger nos enfants de parents violents? Comment s'assurer qu'ils soient bien, bien pris en charge pour éviter que ce soit des enfants poqués pour le reste de leur vie? Je reçois tellement de témoignages de gens en ce moment qui me disent qu'ils s'en remettent difficilement de l'enfance qu'ils ont vécue. On dit, il y a bien des pédiatres qui vont vous dire tout se joue avant 5 ans. On peut en débattre comme vous voulez, mais c'est vrai que notre enfance nous marque. Et une enfance heureuse, c'est déjà bien partir dans la vie. Je pense qu'on va tous être d'accord avec ça. Sandra nous appelle. Bonjour, Sandra.
Bonjour, Isabelle. Moi, je suis une grand-maman qui a dû faire un signalement pour faire retirer 3 enfants. C'est ma fille. Le CLSC était à chaque mois dans le dossier depuis que la première était née. À chaque mois, il y avait une travailleuse sociale qui se rendait à la maison et constatait qu'il y avait de la violence physique, de la violence verbale, de la violence psychologique. La maison était insalubre et ils n'ont jamais fait de signalement à la DPJ. C'est moi qui ai dû le faire. Et les enfants ont été séparés. Les 3 enfants, il y en a un qui se sont... Il y a les deux garçons, il y en a un qui est à Carignan, l'autre est à Saint-Hubert. Ils ont placé la plus vieille qui était en symbiose avec son frère qui était à Saint-Hubert, à Rivière-Baudette. Alors, c'est à 1h30 de Longueuil. Elle devait faire ça soir et matin, le samedi, pour aller voir sa mère les 6 premiers mois. Alors, quand Jean disait que Rigaud, c'était trop loin pour Laval, je peux vous dire qu'il y a des signalements qui se font, qu'il y a des placements qui se font qui sont extrêmement loin. Dans tout ça, moi, j'ai à chaque fois que ma fille allait à la cour, j'y allais puis je suppliais la juge d'ordonner que ma fille suive une thérapie. Mm-hmm. Mais la réponse que j'avais, c'est oui, mais on est là pour s'occuper des enfants. Mais si vous voulez vous occuper des enfants, il faut aussi s'occuper des parents, malheureusement. Il faut que ma fille aime mal ses enfants. Mm-hmm. Et maintenant, il y a un de ses garçons qui ne veut plus l'avoir.
Quel âge les enfants?
La plus vieille a 13 ans maintenant, le deuxième a 11 ans et le dernier a 9 ans. Et celui de 11 ans ne veut plus aller chez sa mère.
Est-ce qu'on l'oblige quand même à y aller?
On l'oblige à y aller en visite supervisée. Il est tombé dans une famille extraordinaire où il est enfant unique. Donc, de revenir dans la fratrie, et là, il y a deux nouveaux enfants, ils sont cinq.
Votre fille a eu deux autres enfants?
Oui, avec un nouveau conjoint. Et la situation s'est améliorée. Jusqu'à quel niveau, je pourrais pas vous le dire parce que...
Est-ce qu'elle vous parle,
ça fait tellement mal que ma fille, non, elle ne me parle pas. J'essaie de parler avec ma petite fille, mais il y a comme une loi, il y a comme une omerta qui est vécu, qui ne peut pas se dire, qui a rien qui peut se dire. C'est sûr que ma fille a beaucoup de colère envers moi, que c'est de ma faute. Mais j'essaie de lui dire, regarde, c'est pas moi qui crie après les enfants, c'est pas moi qui les frappe, c'est pas moi qui lave pas son plancher,
Est-ce qu'elle est toute seule? Est-ce qu'elle est mère?
Non, elle est avec son nouveau conjoint. Elle a trois enfants à la maison. Sa fille la plus vieille est revenue. Elle a fugué de sa famille d'accueil et ils l'ont ramenée chez ma fille. Est-ce que c'est un bon choix ou pas? Je le sais pas. Je pourrais pas vous dire. Elle est poquée comme les deux autres. C'est vraiment difficile comme grand-parent.
Avez-vous l'impression, Sandra, que vous avez été écoutée par les intervenants de la DPJ comme grand-mère? Ce que je pense, entre autres, au cas de la petite fille de Granby où la grand-mère avait fait des signalements. Puis on y avait dit, ben regardez, la grand-mère, là, vous êtes trop émotivement impliquée. Là, je paraphrase de mémoire, là, mais elle avait témoigné pour dire je me suis pas sentie du tout prise en considération. Pourtant, je suis la grand-mère et je voyais bien ce qui se passait. Avez-vous l'impression que c'était un peu ce que vous avez vécu, vous, Sandra?
On m'a écoutée pour le signalement, mais par la suite, ma fille avait une relation conflictuelle avec l'agent de la DPJ, donc elle passait beaucoup par moi pour créer le lien entre avec ma fille, parce que j'arrivais quand même à lui parler puis à essayer de lui faire entendre raison. Mais quand on se présentait à la cour, on n'a pas de droit comme grand-parent. On n'a aucun droit. C'est vraiment difficile de revendiquer quelque chose pour les enfants et pour le parent, parce que les enfants aiment leurs parents, mes petits-enfants voulaient revenir, mais ils se rendaient bien compte que leur mère était pas capable de les accueillir, était pas capable de les aimer comme ils devaient être aimés, comme ils doivent être aimés. Mais on n'a jamais forcé ma fille à régler ces problèmes-là. Et moi, comme parent de ma fille, je me demande ce que j'ai fait. J'ai dû faire une thérapie pour finalement me rendre compte que c'était pas ma responsabilité, c'est pas moi qui étais en tort.
Ouais. Merci Sandra, c'est un témoignage très touchant, fabuleux témoignage, parce que vous allez chercher plein d'éléments là, de la problématique sur laquelle on discute en ce moment. Merci beaucoup de votre témoignage. J'aimerais entendre mes invités là-dessus. José Lito d'abord et Nancy ensuite. José?
Oui. C'est incroyable, mais ça me faisait penser beaucoup. c'est très dur de demander à un enfant de choisir. Ça s'appelle le conflit de loyauté.
Ouais.
Imaginez-vous, on n'en parle pas souvent, mais c'est fondamental. Moi, je me souviens quand j'ai fait la série Olivier et quand j'ai écrit le livre avant, je me suis senti tellement mal que j'embellissais les agresseurs. Je me mettais à les préserver. J'étais sur le plateau. Ils disaient, non, il n'est pas comme ça. Il est moins pire. J'ai passé mon temps à faire ça. Et souvent, ça me touche énormément parce que ce conflit de loyauté-là, quand on demande à un enfant qui va le week-end voir sa mère, imaginez-vous quand il voit sa mère tout croche, jugée par les gens de DPJ, puis il revient dans une famille d'accueil. Lui, il se dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Mais il n'est pas en âge de choisir. Donc, il y a un conflit de loyauté qui s'installe et qui va rester toute sa vie en se disant, ai-je fait les bons choix? Ai-je protégé les bonnes personnes? Mais il va toujours s'oublier, lui. Il est même prêt à mentir. Moi, j'ai une amie à moi l'autre jour qui m'a raconté qu'elle avait dénoncé quelqu'un et l'enfant a dit jamais, 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 ma mère a fait ça. Il acceptait encore les coups. Là, on est allé deux personnes, puis on a prévenu la personne que c'était terminé. Mais c'est ça le problème de confier la loyauté, c'est que ça exige énormément d'un enfant et c'est quelque chose qui est fondamental, la loyauté, quand on est un petit enfant.
Ah, complètement. Nancy, toi, tu as écrit ton livre. Le titre dit tout. Tu dis « Plus jamais la honte ». Il y a la honte aussi, là, j'entendais celle de Sandra, en fait, sa culpabilité, mais il y a aussi la honte des enfants qui grandissent de cette façon-là. Je pense à sa petite fille de 13 ans, ses deux petits-fils de 9 et 11 ans, séparés. Moi, quand j'entends qu'il y a trois enfants comme ça qui sont séparés alors que c'est des frères et sœurs, ça aussi, c'est épouvantable, je trouve. Puis je comprends que quand t'es trois, ben c'est difficile pour une famille d'accueil d'en prendre trois, mais je suis sûre qu'au Québec, quelque part, il y a une famille qui prendrait les trois d'un coup, tu sais.
Mais ce qui m'a beaucoup touchée, puis ça rejoint un peu ce que José Lito disait. Vous savez, quand un parent manque d'intégrité envers son enfant, l'enfant, il n'arrête pas d'aimer son parent. L'enfant, il arrête de s'aimer lui-même. C'est ça le grand drame. L'enfant, il va continuer d'aimer son parent. Il va même le protéger. Je l'ai fait. Tous les enfants qui ont subi de la violence protègent, mentent. Oublie aussi involontairement de dire certaines choses, mais aussi l'enfant souvent va se dire c'est de ma faute. On lui a souvent répété que c'est de sa faute. C'est de sa faute si sa mère ou son père perd patience. C'est de sa faute, il est pas assez gentil. Il écoute pas assez les consignes. On a le sentiment, on grandit avec le sentiment que c'est nous le problème et la honte s'installe. La honte de ne pas être un bon enfant, tellement qu'on n'est pas, on peut pas vivre au sein de notre famille. Il y a aussi parfois l'enfant dans son cœur, l'espoir un jour que son parent change. Un jour, il va changer, je vais tellement être gentil que mon parent va changer, il va m'aimer mieux, je vais vivre moins de violence. Donc, c'est très complexe pour un enfant, vous savez, de vivre dans un contexte de violence familiale très, très complexe.
Et d'en parler, c'est très difficile. Toi, tu l'as fait quand tu étais petite dans ton livre. Écoute, ça m'a pris à la gorge en lisant ça. Tu étais toute petite, hein. Tu disais, tu as dit, je pense que c'était à une amie ou une tante, Suzy. Tu as dit, tu crois que le petit Jésus sera fâché contre moi si je prends un couteau et que je me tue?
Il y a beaucoup plus d'enfants qu'on pense qui ont des idées suicidaires, des petits-enfants, 4, 5, 6, 7 ans. L'enfant, à un moment donné, là, il est tellement en détresse qu'il pense que c'est la seule solution, c'est de s'enlever la vie. Et c'est quelque chose qui est très troublant dans les centres jeunesse en ce moment. Vous savez, il y a des chambres de petits garçons ou de petits garçons, là, 7, 8 ans, où on ne peut pas mettre de rideau parce que c'est trop dangereux, parce que les petits garçons tentent de s'enlever la vie. Donc, il faut s'attarder, Isabelle, à cette souffrance-là. Puis tantôt, José Lito parlait de son ami, le petit Mario qui s'est enlevé la vie. Mais moi, ma famille d'accueil où j'étais, la belle Rosemée me disait qu'elle a beaucoup d'anciens qui se sont enlevés la vie. Donc, ça lui fait du bien quand elle voit de ces anciens qui ont réussi dans la vie, parce qu'elle dit qu'elle peut les compter sur les doigts d'une main, ces anciens qui ont réussi dans la vie, parce qu'il y en a beaucoup que ça s'est mal terminé, le petit garçon, moi, avec qui je jouais en famille d'accueil, que j'aimais beaucoup, un petit garçon tout doux, aujourd'hui, il est en prison. Lui, là, il a tué son père, ce petit garçon-là, qui était tellement, tellement mignon, tellement tout doux. Ça m'a ébranlée quand j'ai su ça. Je vais pas vous mentir, mais des enfants comme ça qui n'ont plus envie de continuer, malheureusement, il y en a beaucoup.
Et vous avez raison tous les deux, José Lito et Nancy, de dire que après on se demande pourquoi autant de violence conjugale, pourquoi autant de rage chez certains hommes, pourquoi les femmes n'ont pas plus confiance en elles et supportent des situations insupportables. Ça vient de l'enfance. Ça vient de l'enfance. Il faut s'occuper de nos enfants pour que plus tard, il y ait beaucoup moins de problèmes comme ça à régler. On va s'arrêter ici. Je veux qu'on aborde la question après 18 ans, parce qu'on l'a à peine effleuré, mais c'est important. Oui, il y a la DPJ, mais quand il n'y a plus la DPJ, c'est-à-dire après 18, qu'est-ce qu'on fait pour ces enfants-là qui deviennent des jeunes adultes? À tout de suite, tout le monde. Bonjour, Éric. Vous êtes intervenant de la DPJ depuis 30 ans?
Oui, bonjour. Ça va bien?
Oui, on vous écoute.
Oui. Ben moi, c'est ça. Je suis intervenant depuis 30 ans en partenariat avec la DPJ.
Oui.
Qu'est-ce que je déplore, c'est que ils construisent des écoles, OK, ou les services scolaires construisent des écoles, mais les ressources au niveau de la DPJ ne suivent pas.
Mm-hmm.
Et d'autant plus, c'est que maintenant, ils placent des enfants de 12 ans et moins dans des unités de 12 à 18 ans. Ils ne respectent plus leur
intimité leur d'enfant de... ou en lien avec leur âge, par exemple. C'est ça que vous voulez dire, Eric?
Oui, oui, de plus en plus. Et j'ai même fait des plaintes au niveau des députés. Ça s'est rendu au niveau de la direction générale. On m'a rencontré. On m'a dit que je devais me la fermer, comme on dit. Le devoir de loyauté était très important.
Je leur disais,
est-ce que le droit du jeune d'avoir un bon service, un meilleur service, que d'être placé avec un jeune de 17 ans qui vendait des drogues, avec un jeune des fois de 9 ans?
Ah oui, on comprend bien ce que vous voulez dire. Ben c'est ça, c'est tout à fait. Puis ça fait sans doute partie des, j'espère, des choses que Régine Laurent va avoir étudié et va certainement proposer quelque chose. Merci beaucoup, Éric, de votre intervention. Oui. Nancy Audet, José Lito, tu disais tout à l'heure, après 18 ans, qu'est-ce qui arrive là? Et ça, c'est vrai que c'est un problème. Il y a le problème pendant que le jeune est sous la gestion, juridiction de la DPJ, mais une fois qu'il y a 18 ans, c'est merci, bye-bye, on ouvre la porte puis arrange-toi avec ta vie. Là. Ça ressemble un peu à ça.
Ça, et souvent le jeune sort avec une poche. Moi, je suis allé à plusieurs endroits au centre jeunesse pour en voir sortir des jeunes. Ça sort pas avec grand-chose, tu comprends? Ils sont rentrés avec peu de choses, ils en sortent avec peu de choses, et ils n'ont pas la maturité pour affronter le monde des grands. Ils sont catapultés dans le monde des adultes qui ne connaissent pas, et ils sont déjà menacés avant même de sortir. Donc moi, ça, là, quand j'entends ça, on me dit, c'est ça la loi. Moi, je veux plus rien savoir. Installer quelque chose qui fait que pendant un an ou deux, ils sont bien accompagnés, qu'il y a une espèce de... On puisse aller voir à tout moment, parce qu'on les retrouve souvent dans la rue.
Ouais.
Attention, aller voir le refuge, qu'est-ce qui se passe? Il y en a beaucoup qui viennent des centres jeunesse. Donc, s'il vous plaît, dans ce rapport-là, pensez à ce après 18 ans-là, qui est fondamental. Parce que c'est le futur de ces adultes-là.
Ouais, t'aurais tellement raison. Puis qu'on nous dise pas, ah, ben là, nous, on s'occupe juste des enfants. Après 18 ans, ça tombe aux adultes. Non. Donc ça, c'est pas notre juridiction. Hein?
C'est inacceptable s'ils font ça.
Ouais.
C'est inacceptable si on fait ça, Isabelle.
Nancy Audet, justement, Nancy, toi, t'es en lien avec au moins une jeune que tu suis qui a plus de 18 ans puis qui donc a un appartement, mais bien dans un quartier pas forcément celui qu'elle aurait souhaité. C'est difficile d'avoir 18 ans, d'être un enfant de la DPJ puis de se ramasser dans la vie, quoi, toute seule.
Ben, c'est parce qu'ils sortent avec peu d'outils dans leur coffre d'outils. Et on leur dit, mais organisez-vous avec ce que vous avez. Ça fonctionne pas. C'est aussi des jeunes qui vivent beaucoup de solitude. Parce que contrairement à d'autres, ils n'ont pas un réseau familial et non pas un grand réseau pour les soutenir. Moi, là, il y a combien de jeunes que je vois, là, 21, 22, 23 ans, qui habitent encore chez leurs parents. Les parents les aident à acheter une première voiture. Les parents les aident à payer leurs études. Mais ces jeunes-là ont rien de ça. Ils sont laissés tout seuls. C'est difficile, Isabelle. Ouais. Et il y a une maturité aussi émotionnelle qu'ils n'ont pas pu acquérir comme un enfant qui a grandi souvent au milieu d'une famille. Faut penser à ces jeunes-là, puis j'espère qu'il va y avoir des mesures d'annoncer pour eux.
Tous les deux, merci infiniment d'avoir pris cette heure pour nous parler, pour témoigner de votre expérience, de votre vécu. Vraiment, c'est très apprécié. José Lito Michaud, on suit tous tes projets, bien sûr. On va lire tes livres. Nancy également. Merci beaucoup, Nancy Audet. Et on va surtout espérer que la commission de Régine Laurent fasse œuvre utile. À demain, tout le monde.